Donc, merci à tous d'être venus si nombreux. C'est l'antenne aquitaine de l'Institut des sciences de la communication que vous devez connaître par son emblématique directeur qui est Dominique Volton, qu'on voit assez régulièrement dans les médias, qui vous invite aujourd'hui à participer à ce débat à propos d'un livre qui nous a réjouis et j'espère qu'il vous réjouira aussi parce qu'il revient sur un certain nombre de lieux communs et d'évidences pour le grand public, mais vous en discuterez ensuite si vous le souhaitez. Alors, je vais vous présenter très brièvement les principaux protagonistes de ce débat. Alors, tout d'abord, Bastien Lelu, qui est ici en bleu, pour le reconnaître. Évidemment, les auditeurs, eux, ne voient pas la couleur, mais c'est pour les participants. Donc, Bastien Lelu est un des co-directeurs de cet ouvrage, et c'est à ce titre que je lui donne la parole en premier. Alors, vous avez là une brochette globalement de jeunes scientifiques qui ont la particularité d'être comme l'Institut des sciences de la communication au carrefour de plusieurs disciplines et donc d'avoir des casquettes multiples et variées, mais surtout de très grandes compétences. Et Bastien Lelu est tout à fait révélateur de cette multicompétences, puisqu'il est à la fois agrégé de physique et ancien élève de l'École normale supérieure de Lyon, mais il a fait également un master de recherche en communication scientifique et technique, et il fait à l'heure actuelle une thèse sur l'histoire des politiques publiques en matière de vulgarisation scientifique. Il participe à deux groupes de recherche qui sont des associations, l'une qui a un nom qui est très révélatrice de l'esprit général dans lequel il travaille, c'est-à-dire l'humour et aussi les compétences diverses et variées, puisque sa principale association s'appelle les Atomes Crochus, c'est tout un programme, il vous en parlera peut-être, où il s'occupe tout particulièrement de photographie, à la fois avec des regards artistiques, historiques, scientifiques et techniques. Mais il est aussi dans le groupe Trace et directeur des publications et vous avez un descriptif de ce groupe dans l'ouvrage dont nous parlons ce soir. Alors ensuite, je vais donner le pédigré en quelque sorte d'Edouard Kleinpeter qui est à sa droite, qui lui est à l'heure actuelle ingénieur de recherche à l'Institut des sciences de la communication dont je vous ai parlé précédemment, l'ISCC, je ne reviendrai pas sur le sigle, et qui lui également est au carrefour de plusieurs disciplines puisqu'il est ingénieur physicien, mais il a également fait l'école de journalisme de Lille et à ce titre, il est évidemment spécialiste de médiation scientifique et de journalisme scientifique. Il prépare lui aussi une thèse à l'heure actuelle à l'Institut d'histoire et de philosophie des sciences et des techniques sur les fondements philosophiques de la médiation scientifique. Là encore, c'est tout un programme. Ensuite, vous avez Antoine Blanchard, qui est arrivé le dernier, mais heureusement, il est là. Il est chef d'entreprise et cela explique qu'il ait eu un petit peu de mal à nous rejoindre à une heure.
Parce qu'il est bien connu que les scientifiques qui ne sont pas chefs d'entreprise, ils ont du temps libre. Merci, Annie.
Bien, alors vous voyez que la contestation déjà s'installe entre les protagonistes, mais je les laisserai débattre entre eux, rassurez-vous. Donc, il est, lui, ingénieur agronome et formé à la sociologie des sciences. Je sais qu'il aime bien qu'on le présente comme sociologue, mais il est quand même, il a des compétences scientifiques incontestables. Il a donc une entreprise, comme Olivier Lahutte m'a interrompu pour le dire, cette entreprise qui aide un certain nombre de laboratoires de recherche, de collectivités territoriales, de ministères, de musées de la science à monter des dossiers et à se retrouver dans les arcanes administratives, mais aussi à trouver bien d'autres compétences. Alors, il est plus particulièrement spécialiste du web et il a développé un regard aigu sur ce que le web change ou non, il vous en dira sans doute plus, aux pratiques scientifiques. Et c'est également un blogueur actif et vous pourrez le retrouver sur Internet si vous le souhaitez. Enfin, j'ai gardé peut-être le meilleur pour la fin. Voilà, c'est Olivier Lahutte, donc mon collègue à l'Université de Bordeaux 3, qui lui également est au carrefour à la fois des mathématiques, puisqu'il est agrégé de mathématiques. Je ne sais plus si j'ai dit que Bastien était, lui, agrégé de physique. Donc Olivier Lahutte, agrégé de mathématiques, mais il est surtout, à l'heure actuelle, directeur de l'Institut des sciences de l'information et de la communication, qui est au sein de Bordeaux 3 une entité particulière. Et il a animé et fondé, et il continue à diriger, une spécialité professionnelle d'un master qui s'appelle « Médiation des sciences ». Et il rentre donc, c'est un master qui est commun à l'Université de Bordeaux 1 et de Bordeaux 3 et qui est intitulé « Histoire, philosophie et médiation des sciences ». Il est membre du conseil scientifique de la rénovation du musée d'histoire naturelle de Bordeaux. Donc, je crois en avoir assez dit, sauf que vous pouvez retrouver Olivier Lahutte dans une série de publications. Et en particulier, j'ai relevé parmi la liste impressionnante de ce qu'il a écrit en 2000, « Discours d'experts et démocratie » qui a paru chez l'Harmattan. Voilà, donc je laisse Olivier Lahutte, qui va être le modérateur du débat entre ces messieurs, prendre la parole et vous en dire plus sur cet ouvrage qui, encore une fois, je le pense, vous réjouira, même si vous n'êtes pas mathématicien ou physicien à toute épreuve. Merci en tout cas à tout le monde et merci entre autres à Nathalie Pinède, qui est la secrétaire de l'antenne Aquitaine de l'ISCC et qui a organisé matériellement cette rencontre. Et merci à tous ceux qui sont présents. Merci Olivier.
Merci beaucoup, Annie, pour cette présentation. Donc, bonjour, mesdames, messieurs. Nous sommes ici, donc, ce soir pour la présentation de cet ouvrage intitulé « Les scientifiques jouent-ils au dé ?» et dont le sous-titre est « Idées reçues sur la science ». Alors, bien sûr, « Idées reçues sur la science » revient Flaubert au grand galop. Que dit le dictionnaire des idées reçues? Entrée science. Un peu de science écarte de la religion, beaucoup y ramène. Beaucoup de science, religion. Ah oui, Einstein, grand scientifique s'il en fut, connu pour sa pratique aussi religieuse. Einstein, oui. Dieu ne joue pas au dé. Les scientifiques jouent-ils au dé? D'accord. Donc, les auteurs dans cet ouvrage se posent la question, les scientifiques sont-ils comme Dieu? Là, c'est Woody Allen qui nous permet d'avancer un peu plus. Dans la scène introductive de « Maris et femmes », 1992, qui fait dire au personnage qu'il joue, d'ailleurs, Dieu ne joue pas au dé, mais il joue à cache-cache. Donc, deuxième question, les scientifiques jouent-ils au dé, comme Dieu? Se prennent-ils pour Dieu? Les scientifiques jouent-ils à ce moment-là à cache-cache? Avec qui? Avec nous? Avec la nature? Ah, ils nous dévoilent la nature, les lois de la nature. Ils nous donnent des certitudes sur la nature où il ne nous en donne pas. Certitude, incertitude, oui, les dés, le hasard, et Mallarmé, un coup de dé n'abolira jamais le hasard, bien entendu. Donc, cet ouvrage est articulé comme une série de variations autour de ces thèmes. Il est composé de quatre grandes parties. Chaque partie comporte quatre chapitres. Quatre parties, quatre chapitres, 16. C'est bien carré, c'est très scientifique comme structure. Vous mettez une introduction, une conclusion. Tout est dans l'ordre. Alors, c'est vous qui êtes là pour présenter votre ouvrage. Quelle motivation pour une telle publication? Annie Barre l'a rappelé, vous êtes trois jeunes chercheurs ou jeunes scientifiques dans un engagés dans un projet collectif. Est-ce que, Bastien, est-ce que vous pouvez nous dire comment cette publication a pris naissance, comment est-ce qu'elle a pu s'organiser?
Alors, bonsoir. Donc, l'ouvrage dont il est question a été rédigé de manière, a voulu être rédigé de manière collective sous l'étiquette du groupe de réflexion TRACE, qui est un groupe de réflexion réunissant une dizaine de jeunes personnes un peu à notre image, venant d'horizons variés, s'intéressant à la science et à sa communication. Et je pense que l'idée de l'ouvrage est arrivée à un moment où, dans notre formation, nous étions tous en train de découvrir, ou nous avions tous découvert récemment, qui la philosophie des sciences, la sociologie des sciences ou l'histoire des sciences, le regard que les sciences humaines et sociales peuvent porter sur la pratique scientifique. Et c'est un regard qui nous est venu dans un second temps pour chacun d'entre nous, puisque nous avions tous au départ une formation scientifique « dure », entre guillemets, avant d'acquérir ce regard des sciences humaines et sociales. Et je pense que nous avons eu envie, collectivement, de partager ces choses qui nous ont enthousiasmés. Et il nous semblait qu'il n'existait pas vraiment de livre s'adressant à un public plutôt large, qui peut être un public scientifique, mais qui peut même être élargi à encore un plus grand public, traitant de ces questions. Et pour ma part, c'est comme ça que je vois les choses, c'est cette envie de partager cette découverte enthousiasmante qui nous a motivés.
Il fallait mettre un coup de pied dans la fourmilière aussi. Dans la fourmilière des sciences, il fallait mettre un petit coup de pied et faire réagir, disons. Je pense qu'il y avait une volonté un peu de provoquer le débat.
C'est-à-dire qu'il y a une fourmilière ou un nid de termites structuré dans la société scientifique?
En tout cas, oui, il y a des institutions, il y a un mode de pensée, il y a des structures, il y a des hiérarchies. Et alors, bien que ce ne soit pas monolithique non plus, et le monde de la recherche et des sciences a beaucoup évolué quand même depuis l'après-guerre, mais malgré tout, voilà, il y a des choses qui se continuent comme ça, qui sont entretenues. Et alors que, comme le disait Bastien, les sciences humaines et sociales apportent un pas de côté ou un regard supplémentaire, réflexif, qui à notre avis est intéressant à la fois pour les chercheurs mais aussi pour le grand public qui est malgré lui ou avec lui pris dans ces choses là.
Oui, moi, je me permets d'ajouter quelque chose. Donc le sous-titre de l'ouvrage, c'est Les idées reçues sur la science. En fait, ce livre s'inscrit dans une collection des éditions Le Cavalier Bleu. Et c'est une collection qui s'appelle Les idées reçues. Ils ont sorti, je crois, une centaine de bouquins. Donc il y en a sur à peu près tout, sur le Japon, sur les dinosaures. Voilà, les idées reçues sûres. Et donc, dans le projet éditorial, la première partie du projet a été, pour nous, qui étions tous donc, des scientifiques, de penser quelles étaient les idées reçues que les non-scientifiques avaient sur la science. Bon, déjà, ça a été un petit peu compliqué. Et on a fini surtout par se rendre compte, et c'est ça qui était intéressant, donc en interrogeant les gens autour de nous, qu'il y avait pas mal de ces idées reçues en fait, qui étaient aussi entretenues et portées par des scientifiques.
Par nombre de scientifiques.
Par bon nombre de scientifiques, oui.
Oui, on ne va pas faire monsieur tous, traverse. Donc la science est une et indivisible, la science n'a pas de limite. Le chercheur fait des expériences et résout des équations. Les scientifiques sont tous d'anciens bons élèves. Ce n'est pas la science qui est dangereuse, c'est l'usage que l'on en fait. Voilà un échantillon de ces idées reçues qui servent de titre à vos chapitres. Alors, de façon très collective, vous avez élaboré cet ouvrage. Il y a deux auteurs qui apparaissent principalement, donc Bastien Lelu et Richard-Emmanuel Istès, comme directeurs de l'ouvrage. Mais en fait, si on parcourt l'ouvrage, on ne voit pas le nom de M. Blanchard, on ne voit pas le nom de M. Kleinpeter, ainsi que beaucoup d'autres noms. Ce qui en fait presque un livre anonyme,
d'une certaine façon, un peu comme cette idée reçue sur la science qui, telle découverte scientifique, aurait pu être faite par n'importe quel chercheur, puisque c'est lui qui a découvert la vérité. Hein? N'importe quel autre que Christophe Colomb, en allant au même endroit, aurait inventé l'Amérique, découvert l'Amérique, pardon, Christophe Colomb ne l'a pas inventé, paraît-il. De même, votre livre, finalement, se présente un peu comme une caricature du discours scientifique anonyme. Comment est-ce que vous êtes arrivé à un tel procédé, à une telle démarche d'écriture et à un tel lissage d'écriture d'un chapitre à l'autre en termes de style? Comment vous avez procédé?
Alors oui, cet aspect caricatural que vous nous faites relever, je pense qu'en fait il est fortuit, et il est intéressant à interroger, mais c'était pas le but au départ. Comment est-ce qu'on est arrivé à cet aspect collectif? Concrètement, on a commencé par chercher à rassembler entre nous, donc les 10 auteurs du livre sont indiqués juste au départ, mais effectivement au fur et à mesure des pages, on ne sait pas qui a écrit quelle ligne ou quel chapitre. On a commencé par rassembler entre nous toutes les idées reçues qui pouvaient nous passer par la tête, qu'on pourrait formuler sur la science, donc des idées qui font tilt, dont on pense que, ah oui, effectivement, soit moi je pense ça, soit moi je pensais ça, j'aurais pu le penser, ou j'ai entendu un certain nombre de personnes formuler ces choses-là. Donc ça donne une liste extrêmement désordonnée, très vaste, avec beaucoup de redondances. Et ça s'est fait au fur et à mesure de séances de travail, qui nous ont réunis durant environ une année, sur lesquels justement on travaillait aussi sur les auteurs qu'on était en train de découvrir et qui nous intéressaient, qu'on avait envie de faire partager aux autres en interne, de faire circuler des idées, etc. Et donc une fois cette phase de rassemblement des idées reçues faite, il y a eu un travail de construction, d'organisation, de structure, pour voir en quelle catégorie on pouvait réunir ces idées reçues. Donc c'est ce qui a formé les 4 parties de l'ouvrage. Et puis ensuite, quelles idées reçues phares on pouvait mettre en avant. C'est ce qui a formé les 16 chapitres de l'ouvrage. Et puis ensuite, le processus d'écriture en lui-même. En interne, on a distribué l'écriture des chapitres. On a demandé qui était intéressé par l'écriture de tel et tel chapitre. Certains chapitres ont été écrits par une seule personne, d'autres en collaboration. J'ai par exemple écrit un chapitre avec Antoine sur la démarche scientifique. Et une fois ces chapitres écrits, pour chacun d'eux, il y a eu un nouveau travail collectif assez important de relecture, où chaque chapitre était donné à relire à d'autres membres du groupe, critiqué par les autres membres du groupe. Et un certain nombre d'allers-retours s'en est suivi jusqu'à aboutir à une version satisfaisante pour tout le monde, avant même la version satisfaisante pour l'éditeur.
Dans ce sens-là, pardon, oui, je pense que l'ouvrage est vraiment assumé collectivement, quoi. C'est-à-dire que chacun, justement, il n'y a pas de nom à chaque chapitre, et c'est bien que chacun se reconnaît dans les chapitres, et l'aspect un peu anonyme, effectivement, peut-être parce que ces idées-là, elles ne sont pas vraiment les nôtres, sont des idées qu'on a reformulées, qu'on a réagencées, mais qui ne sont pas forcément nouvelles, et donc on ne va pas se les approprier. L'ouvrage est bien le nôtre, mais voilà, on ne fait que mettre en forme et redire des choses qui ont déjà été dites, peut-être pas suffisamment fort, peut-être pas sous cette forme-là, mais voilà.
Merci. Monsieur Kleinpeter, je le sais parce que nous en avons parlé ensemble avant, vous avez participé donc au chapitre qui concerne ce n'est pas la science qui est dangereuse, c'est l'usage que l'on en fait, donc les sciences, leurs pratiques, leurs usages. On reviendra après sur cette distinction entre la science et les sciences qui est finement faite dans l'ouvrage. Donc les sciences, leurs pratiques, leurs usages. Et les sciences, vous vous interrogez sur elles, sans vous prendre au sérieux, mais ce que vous prenez très au sérieux, le livre est plein d'humour. Hein, ça, je le signale à ceux qui ne l'ont pas encore lu, ça pétille un petit peu de page en page. Mais ce que vous prenez très au sérieux, ce sont les implications des sciences pour la société. Donc, comment, compte tenu de ce qui a pu se passer, on pourrait démarrer, vous démarrez assez facilement avec les gaz de la Première Guerre mondiale, en allant jusqu'aux problèmes que nous posent nos centrales nucléaires, en passant par Bhopal et Hiroshima. Comment est-ce que, compte tenu de tout ça, est-ce qu'on doit craindre finalement les maths? Est-ce qu'on doit craindre la chimie?
Oui, alors effectivement, donc j'ai participé à plusieurs chapitres. Enfin, je vais juste ajouter quelque chose sur le processus collectif de rédaction. C'est que certains ont plus participé à certains chapitres, mais tout le monde a quasiment tout relu en fait. Donc, ce qui fait que c'est un ouvrage collectif assez original, qui n'est pas un ouvrage collectif traditionnel au sens où d'habitude chacun écrit un truc et puis après on compile et puis le directeur fait une introduction. Donc là, en l'occurrence, sur la question que vous me posez, ce qu'on prend vraiment au sérieux sur cette question-là, c'est la question de la responsabilité du scientifique. Parce que le scientifique a tendance à réagir comme tout être humain, hein, c'est-à-dire que si il se passe quelque chose de mal, si ces résultats sont utilisés pour produire des bombes atomiques ou conduisent à l'explosion d'une usine à Toulouse, il prétend que c'est pas sa faute. Hein. Il fait comme les enfants, c'est pas moi. Voilà. Donc cette idée reçue, en fait, qui consiste à dire la science est intrinsèquement bonne en tant que poursuite du progrès de la connaissance sur le monde. Après, les applications qu'on en fait, c'est plus de la science. C'est le domaine industriel. Alors, nous, c'est ça qu'on critique, en fait. C'est ce discours, donc cette idée reçue qui, pour le coup, est très répandue dans le monde scientifique, de déresponsabilisation du scientifique qui lui permet, finalement, de se dire ce qu'on fait de mes résultats, finalement, ça ne me concerne plus. Et vous n'avez pas à me tenir pour responsable de la façon dont les gens utilisent ce que moi, j'ai produit dans mon laboratoire. Alors, on peut comprendre, hein, on peut comprendre évidemment qu'ils pensent ça, parce que c'est en partie vrai. Je crois que c'est... Enfin, on attribue tout un tas de trucs à Einstein, mais je ne sais plus qui a fait cette citation. Mais en gros, de dire que si un scientifique savait à l'avance ce qui allait être fait de ses résultats, il s'arrêterait de travailler tout de suite, hein, parce qu'il ne peut jamais, savoir dans quelle direction ça va partir. Et ça, c'est vrai. Donc ça, on ne le remet pas en cause. C'est le discours de déresponsabilisation qu'on met en cause. Et d'ailleurs, c'est aussi une idée reçue qui se répercute, si vous voulez, dans le public, hein, en dehors du cercle scientifique, puisque il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous en avez connaissance, mais il y a une enquête faite par Ipsos, je crois, commandée par Le Monde, le journal et le magazine La Recherche, sur la façon dont les Français voient la science. Et est-ce que les Français font confiance aux scientifiques? Et dans cette enquête, en fait, il apparaît que les gens font confiance beaucoup aux scientifiques et très peu aux industriels. Donc cette dichotomie entre production de connaissances et utilisation de ces connaissances existe un peu partout, mais elle a, selon nous, et c'est ce qu'on défend dans le bouquin, elle a des implications assez néfastes sur cette déresponsabilisation des scientifiques.
Est-ce que cette dichotomie donc entre chercheurs et recherche scientifique et application industrielle n'est pas exacerbée en France? Vous avez bien dit que c'était une enquête française, par le fait que en France, l'essentiel quand même de la recherche est une recherche publique dans les universités ou des grands organismes de recherche, CNRS, INRA, INSERM et quelques autres. Au contraire d'autres pays où la recherche est plus proche, très, plus naturellement proche du monde industriel. Est-ce que vous avez des billes ou des pistes là-dessus ?
Alors, moi, pas tellement. Peut-être plus Antoine, hein, qui a travaillé pas mal dans le monde anglo-saxon. Maintenant, à part justement, je pourrais donner ces idées reçues, oui, qui consistent à dire que cette dichotomie est très française. Alors, est-ce que c'est dû au système de recherche publique ? Ça, je ne sais pas. Mais il est vrai qu'on passe plus naturellement de la science pure et désintéressée, avec tous les guillemets qu'il faut, à l'application industrielle dans d'autres pays. Je sais que dans les pays nordiques, hein, Bastien qui est en Finlande pourrait également en parler, ça se fait de façon beaucoup plus naturelle, sans parler évidemment des États-Unis. Mais quand même, en France, de plus en plus, donc là je connais bien le CNRS notamment, sont mises en avant... quand on demande de l'argent, quand on dépose des projets pour obtenir de l'argent, sont mises en avant les perspectives d'application et ce qu'on appelle la valorisation, c'est-à-dire le transfert du laboratoire à l'application technologique. J'ai pas tellement d'éléments de comparatisme international, donc je suis désolé.
En tout cas, au niveau européen, au niveau de l'Union européenne, c'est un discours qui se veut homogène sur toute l'Union européenne. La Commission européenne promeut complètement et de plus en plus, mais dès les années 70 ou 80, c'était déjà le cas, une recherche qui doit impliquer de la valorisation, de la diffusion, du transfert technologique pour mener à l'innovation. Alors ça, c'est le grand mot de la décennie à venir pour l'Union européenne, l'innovation. Donc toute la recherche doit être pilotée par cet impératif.
Merci. Alors, Bastien, dans le chapitre qui s'intitule la démarche scientifique guide le travail du chercheur, alors maintenant je me méfie parce que je me dis, chaque fois qu'on exprime quelque chose, comme ce sont des spécialistes, ils vont cataloguer mon idée d'idées reçues. Bon, donc je suis sur mes gardes. Dans ce chapitre qui est intitulé donc par l'idée reçue, la démarche scientifique guide le travail du chercheur. Et alors là, s'il y a une belle idée reçue bien générale, c'est celle-là. Donc je reprends quelques passages. On peut mentionner le fait que parler d'une seule méthode scientifique qui serait universelle ne tient pas longtemps lorsque l'on prend conscience de l'infinie diversité des pratiques. Diversité d'une discipline à l'autre, tout d'abord, vous développez. Diversité géographique, ensuite, vous développez. Diversité, enfin, autour du temps, les pratiques de ce début du XXIe siècle n'ayant plus grand-chose en commun avec celles qui avaient cours, ne serait-ce qu'il y a 50 ans. Donc, vous êtes là dans ce chapitre qui, j'ai trouvé très, très finement, très, très subtilement, participe à une démythification de la démarche scientifique et de cette sacro-sainte démarche que l'on enseigne dans les manuels, et pas uniquement les manuels de sciences dures. Hein. Il y a le qui vit un peu nous, de méthode de recherche en sciences sociales. Bon, on l'a fait lire et on l'a fait avaler à des générations d'étudiants. Vous, dans cette démythification de la démarche scientifique, je vous ai trouvé, c'est pas vous, c'est collectif bien sûr, finalement assez proche d'un grand auteur qui n'est nommément jamais convoqué, mais que j'ai trouvé très fortement en filigrane de ce chapitre, Feyerabend. C'est-à-dire que les grands saints patrons de la philosophie, de l'histoire et de la sociologie des sciences sont convoqués. Popper, Kuhn, on a Calon, on a Latour, j'en oublie encore. On n'a pas Feyerabend nommément cité. Donc, pourquoi est-ce que c'est fortuit, c'est un oubli ? Est-ce que c'est une vraie réticence ? Et puis j'aurai ma deuxième question après.
Là, au risque de vous décevoir, j'aurais envie de passer la parole à quelqu'un d'autrement plus spécialiste de philosophie des sciences et de Feyerabend que moi, Edouard. Pour ma part, ne pas avoir explicitement nommé Feyerabend, c'est fortuit et c'est tout simplement dû à mon incompétence, sans doute.
Mais c'est parce que je pense pas d'accord avec toi. C'est une vraie réticence. Pourquoi on n'a pas cité Feyerabend? C'est parce que Feyerabend est toujours associé à l'ultra-relativisme. Feuerabend, c'est quelqu'un qui a des écrits remarquables, mais qui sont malheureusement assez mal compris. Et quand on écrit un livre, c'est pour qu'il soit lu. Et on sait aussi que toutes nos réflexions au sein du groupe Trace, dont on a déjà parlé plusieurs fois, sont lues et écoutées dans la communauté scientifique. Et Feuerabend, c'est vraiment l'épouvantail ou le chiffon rouge qu'il vaut mieux éviter d'agiter. Non, vraiment, moi je pense qu'on a bien fait de ne pas en parler. Non, mais si on lit vraiment Feuerabend et si on le considère sérieusement, il explique qu'il n'y a pas de raison logique de préférer la science à d'autres systèmes de connaissances. Alors, il développe son argumentation. Bon, on n'est pas là pour parler de Feuerabend. Mais il est très souvent mal compris, quoi. Il est compris comme un ultra-relativiste. On dit oui, Feuerabend, il nous dit que tout est bon, que tout se vaut, que la science et la magie, c'est la même chose. Donc forcément, pour un scientifique qui, lui, dans son fort intérieur, se sent touché, puisque pour lui, la science et la magie, c'est pas la même chose, il dit qu'est-ce que c'est que ce guignol? Voilà. Donc je pense qu'on a bien fait de ne pas parler de Feuerabend.
Et peut-être que le chapitre est un peu plus moins philosophique et peut-être un peu plus sociologique ou anthropologique, dans le sens où on cite par exemple les études de laboratoire. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais effectivement, des sociologues qui vont dans des laboratoires et qui étudient la façon dont est faite la recherche et qui se rendent compte, en suivant le raisonnement des chercheurs et en lisant ensuite les notes qu'ils prennent, que parfois les raisonnements ne sont pas entièrement logiques. On a la logique aristotélicienne, etc. Et justement, ça ne suit pas tout à fait ça. Il y a des petits glissements qui font que, d'un coup, il y a un truc, et c'est là que c'est créatif, un truc qui apparaît, une hypothèse qui surgit, qui va pouvoir être testée, ou même qui surgit après que le chercheur ait observé quelque chose. Et voilà. Et donc, on cite plutôt ça qu'effectivement des travaux philosophiques, qui en plus sont des repoussoirs.
Donc, alors, cette méthode scientifique, qui n'est peut-être pas aussi méthodique qu'elle voudrait bien le laisser croire, qu'est-ce qu'on pourrait en tirer comme leçon en termes d'enseignement? Parce que pour ma part, enfin, je sais, j'ai fait des maths quand j'étais petit, l'enseignement des maths, c'était apprendre des définitions, apprendre les théorèmes qui allaient avec, et suivre un certain dressage, jusqu'à la licence, suivre un certain dressage pour être capable de résoudre l'exercice qu'on nous proposait, faire la démonstration. Donc, finalement, comme si l'enseignement des sciences consistait à inculquer des théories et entraîner les gens à répéter finalement l'exercice, un peu comme le numéro de cirque. J'ai rien contre le cirque quand même, pour autant, mais un peu quelque chose de bien rodé, de bien huilé, qui se répète, mais sur lequel on ne va pas mettre le pas de côté, on ne va pas inventer, on ne va pas faire autre chose. Est-ce que, face à la désaffection pour les études scientifiques plutôt dures que sciences humaines, vous le relevez très bien dans le livre, c'est les sciences dures qui ont un peu, en termes de recrutement d'étudiants actuellement, du plomb dans l'aile. Est-ce que vous auriez des pistes sur le corriger de ceci, pour rectifier un peu la tendance
Alors, est-ce qu'on veut vraiment corriger ceci? Parce que, à mon sens, le cet aspect très répétitif, le bon petit élève qui sait résoudre l'exercice qu'on lui donne, et finalement la seule chose importante qu'il a à savoir faire, c'est avoir une bonne note, c'est pas vraiment devenir un bon scientifique. Mais justement, la science est très utile dans ce processus pour sélectionner les élèves, pour séparer de manière très, très claire les littéraires des scientifiques à l'école. Et puis en général, c'est souvent, c'est en ce moment, c'est comme ça. Ce n'était pas le cas il y a quelques siècles, mais c'est les scientifiques qui vont plutôt accéder aux formations d'élite et qui vont permettre, en particulier, de construire l'élite de la nation du futur. Donc, le fait que ça soit très lié à un processus de sélection fait que finalement, ça a peut-être son utilité. On peut sans doute la discuter, la remettre en cause, se demander si c'est bien tout ça, mais ça sert à quelque chose.
Ça a peut-être une utilité pour un processus de reproduction sociale,
ou
de production sociale. Non, mais j'ai mon Bourdieu qui revient là. mais ça n'a pas forcément d'intérêt pour former des bons chercheurs. Ouais. C'est ce qui était voté dans l'ouvrage. Aussi.
C'est possible, oui. Ouais, ouais. Alors, effectivement, y a des pistes qui existent. Il y a des démarches innovantes qui naissent de ci, de là. Où, la main à la pâte, par exemple. Alors ça, c'est dès l'école maternelle. Pour essayer de donner une dimension expérimentale aux sciences et à ce qu'on puisse parler de sciences dès l'école maternelle et lui donner une dimension expérimentale. Et puis ensuite, pour vraiment véritablement former des chercheurs, par la recherche. Donc non plus au moment de la licence, faire apprendre des théorèmes ou des connaissances et puis les demander de savoir les recracher dans le bon ordre comme il faut, mais plutôt favoriser l'esprit d'initiative, le caractère collectif de la démarche scientifique, plutôt savoir se documenter que savoir tout court. Voilà, un certain nombre de choses comme ça. Je pense que c'est des choses assez neuves. Oui, bien sûr.
Oui, enfin, moi je voulais juste ajouter, enfin, peut-être même pour aller encore plus loin, là, puisqu'on parlait du chapitre sur la question de la méthode, de dire, donc, de susciter, y compris chez les scientifiques, même avant la licence, hein, mais déjà à la fac ou autre, ce que vous évoquiez tout à l'heure, la réflexivité. C'est-à-dire que non seulement on vous apprend à appliquer la méthode scientifique, mais on vous apprend aussi à l'appliquer à elle-même, c'est-à-dire à la remettre en question, à la questionner. Enfin, la méthode ne tombe pas du ciel. Il faut que les scientifiques, et ça, un des grands penseurs qui rabâche ça depuis des dizaines d'années, c'est Edgar Morin, il faut que les scientifiques aient une formation à l'histoire, à la philosophie des sciences, à la sociologie des sciences, pour qu'ils apprennent justement à cette démarche critique vis-à-vis de leur propre système de production de connaissances.
Mais il y a d'autres grands penseurs qui ne sont pas d'accord. ça, je pense que c'est une vraie question. Nous, j'imagine, comme on a adhéré à cette réflexivité, effectivement, c'est ce vers quoi on aurait tendance à pencher. Mais il y a des gens qui pensent qu'un biologiste, il n'y a pas du tout, ou un physicien, il n'y a pas du tout besoin de le former à l'histoire de sa discipline pour qu'il soit productif dans sa discipline. Et si le but, c'est d'être capable de faire avancer les connaissances en physique, le fait de simplement suivre la formation habituelle et puis faire sa thèse et produire des articles, et finalement c'est tout ce qui compte, c'est produire toujours plus d'articles, ça suffit amplement. Et au contraire, si on lui ouvre un peu les yeux et qu'on lui permet de réfléchir, ça peut même le freiner. Alors,
faut pas réfléchir quand on fait des sciences. Non. Voilà. merci. Antoine Blanchard, vous évoquez, enfin il est évoqué dans l'ouvrage, je n'attribue plus rien à Tite ce soir, dans un chapitre qui s'intitule « Le chercheur fait des expériences et résout des équations », ce chapitre évoque la réalité, et de façon assez lucide, j'ai trouvé, la réalité du quotidien d'une carrière scientifique. Pour résumer et caricaturer un peu, le jeune scientifique, il fait sa thèse, donc il cherche sur ordre, parce qu'on lui donne son sujet de thèse. Allez, Toto, tu fais ça. Ensuite, il cherche. Ensuite, il cherche des sous pour lui et pour les autres. Et puis après, il est vieux, il dirige et il fait du relationnel pour faire vivre son labo. Est-ce que, d'une part, vous pourriez nous en dire un peu plus sur cette...
typologie.
Cette typologie, oui, de la carrière scientifique. Et puis, justement, sur votre activité dans votre société Deuxième Labo, qui aide, finalement, qui est un peu service support pour de la recherche, si j'ai bien compris.
Bon, ça fait beaucoup de questions. Alors, oui. Sur la typologie des chercheurs, enfin finalement, alors là, l'idée reçue, voilà, c'est le chercheur monolithique. Il n'y a qu'une image du chercheur dans le grand public quand on demande qu'est-ce que ça va être pour vous un chercheur. Ben, c'est le tableau blanc, il y a la blouse peut-être. Alors soit il a des éprouvettes, il fait un peu de chimie et ça fume. Soit il a une craie et puis il fait des équations au tableau. Voilà. Et donc
un rotationnel. Ça fait très bien sur l'image des rotations.
Voilà, beaucoup. Et alors après, il y a des scientifiques qui voient à la télé, parfois même sans réaliser que c'est des scientifiques. Par exemple, on va présenter un historien comme étant un intellectuel ou un expert peut-être, alors que bon, c'est un scientifique, un démographe, c'est un scientifique, etc. Donc il y a d'autres scientifiques qui se cachent, c'est souvent ceux des sciences humaines et sociales, qu'on n'aperçoit pas toujours derrière l'image habituelle, traditionnelle du scientifique. Et puis, voilà, là encore, moi, le début de un peu, enfin, le moment où j'ai retourné ma veste, c'est après avoir lu Bruno Latour et les études, le travail qu'il a fait de terrain, d'enquête dans les laboratoires, où voilà, il s'est vraiment intéressé à la façon dont fonctionnait la recherche, et il nous décrit tout ça, et on découvre finalement un peuple d'indigènes, puisque, voilà, comme vous le disiez, il y a le jeune chercheur, il y a le chercheur un peu plus expérimenté, etc. Et chacun n'a pas la même fonction. Et tout ça, ça fonctionne extrêmement bien. Et c'est comme une petite administration, finalement. Enfin, lui, il compare ça à l'administration, parce qu'à la fin, ce qui est produit, c'est des papiers. Enfin, ce qui sort, c'est des articles, hein, des papiers, puisque les chercheurs lisent beaucoup. Et ce qui sort à la fin, c'est également des articles, des papiers, puisqu'ils vont écrire. Voilà. Donc, comme dans une administration, ça brasse du papier. Et chacun est un rouage et finalement un rôle très bien rodé là-dedans. Et ça fonctionne très bien, en tout cas aux États-Unis, là où il a fait l'enquête, ça fonctionnait très 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 bien. Et le laboratoire où il a fait son enquête, le responsable, le directeur, a eu un prix Nobel plus tard. Donc effectivement, ça fonctionnait quand même pas trop mal. Et donc voilà, ça c'est si on revient un peu au cas français, il y a cette typologie-là du travail de recherche. Mais même avant, je pense que l'étudiant en licence ou en master, dont on a déjà parlé, ne s'attend pas à ce qui va lui être demandé en thèse et à ce qu'est concrètement le travail de recherche. Donc il y a d'abord une espèce de projection, une fantasmagorie du travail de chercheur. Donc ça, c'est peut-être notre type 0. Type 1, ça va être l'étudiant qui aspire à devenir chercheur, et puis il va rentrer en thèse. Et donc là, c'est 3 ans généralement, peut-être plus en sciences humaines et sociales, sur un sujet bien délimité, encadré par un directeur de thèse, où il va pouvoir faire ses premières armes, et souvent arrive le début des désillusions, parce que ce qu'il... Il était peut-être pris de passion pour un sujet, peut-être pour l'exploration, comme ça, d'un champ très vaste de connaissances. Et puis, on va lui demander de s'intéresser à quelque chose d'extrêmement précis et d'aller au fond des choses. Et puis, d'être très, très rigoureux, de répéter 4 fois les mêmes manipulations, expériences. 40, qui durent chacune une semaine, où il faut dormir au laboratoire parce qu'il faut relever les plantes toutes les 2 heures, etc. Donc, c'est du boulot. Et finalement, les doctorants, c'est les petites mains. C'est eux qui vont faire tout ça.
Je dis, c'est la mine.
C'est la mine, ouais. Mais ça va, ils sont majeurs, donc c'est bon. On peut leur faire faire. Et puis voilà. Donc après, petit à petit, évidemment, le chercheur prend de l'assurance, de l'expérience. Alors tous ceux qui sont formés à la thèse ne deviennent pas chercheurs. Il y en a beaucoup qui changent de carrière, alors qu'ils restent, enfin, pour moi, ça reste des scientifiques, dans le sens où ils ont une formation scientifique, mais il n'y a pas de place pour que tous les docteurs deviennent chercheurs. Il n'y a pas assez de place dans les laboratoires, donc voilà, ils se recyclent, ils font d'autres choses. Et puis, celui qui veut continuer, alors là, c'est encore un parcours semé d'obstacles pour enchaîner les contrats de recherche précaires, ce qu'on appelle souvent les post-docs, hein, qui sont des CDD, parfois à l'étranger, parfois en France. On en fait quelques-uns, et puis il faut candidater sur des postes pour être fonctionnaire, donc faire de la recherche, en tout cas dans la recherche publique. Et où là, petit à petit, voilà, il y a différents grades qui existent, chargé de recherche, directeur de recherche. Et les grades ne coïncident qu'à peine avec ces différents types, parce qu'après, en fonction du profil et des envies et voilà, de ce que, de la façon dont on va s'affirmer le chercheur, il va effectivement plutôt s'orienter. C'est très drôle de voir cette faune et chaque chercheur de repérer un petit peu dans quelle case est-ce qu'il va. Il y a celui qui est fana, par exemple, de créer des nouveaux dispositifs expérimentaux. Donc c'est un peu le bricoleur du laboratoire. Alors c'est toujours lui qu'on va voir quand on a besoin d'un nouveau dispositif ou de régler un petit problème technique. Il y a celui qui aime bien écrire. Alors ça va être celui qui va peut-être écrire les papiers, les articles, celui qui est plus dans la communication, donc qui va sortir dans le labo, qui va aller parler, etc. Et il y a un excellent livre que je vous invite tous à lire de Pierre-Gilles de Gennes, le prix Nobel, qui s'appelle Petit Point, voilà, qui l'a écrit vers la fin de sa carrière et qui est une galerie de portraits. Alors ils ont des noms à dormir dehors, mais et qui, voilà, c'est un peu les gens qu'il a vus, qu'il a rencontrés, les protagonistes qu'il a rencontrés au cours de sa carrière. Et c'est très très drôle, quoi. En fait, il épingle un peu les travers des chercheurs. Celui qui se mêle de politique, qui va se retrouver dans des commissions pour attribuer des financements, etc., mais qui finalement est plus trop en phase avec la recherche, qui sait plus trop ce qui se fait et qui fait des trucs, enfin, qui a dans sa tête des conceptions d'il y a 20 ans, quoi, par exemple. Voilà. Donc, il est un peu sans pitié. C'est extrêmement drôle à lire et c'est quand même très très réaliste.
Voilà. Merci. Alors,
pour aller au deuxième labo.
Deuxième labo.
Alors, deuxième labo. Alors, une autre idée reçue, c'est de dire bon, le public ne connaît pas ou les citoyens ne connaissent pas suffisamment de science. Ils n'ont pas assez de culture scientifique. Et donc, il faut rapprocher le grand public des chercheurs. Bon, alors, moi, je propose la formulation inverse, c'est de dire que peut-être que les chercheurs ne savent pas assez ce qu'est ce grand public, qu'est-ce qui se passe dans le grand public. Donc, j'ai une formation d'ingénieur agronome, comme ça a été rappelé, et donc, on m'a appris voilà, qu'est-ce que c'était que l'agriculture moderne, productiviste, etc., donc les engrais, les OGM, alors très bien, voilà. Donc ça c'était la formation à l'école, et puis qu'on est censé mettre en œuvre une fois qu'on dans le milieu professionnel. Et du coup, je ne comprenais pas, moi, pourquoi les gens étaient contre les OGM. Finalement, les OGM, c'était vachement bien. Puis on avait toujours introduit des innovations variétales, de l'innovation en agronomie, sans que jamais personne ne se plaigne. Et puis d'un coup, les OGM, ça ne passait pas. Alors, voilà. Et les scientifiques, jamais personne dans mon école n'a expliqué, ou même peut-être ne sait finalement, les raisons de ces résistances-là. Donc peut-être que finalement, c'est des scientifiques qu'il faut rapprocher le grand public qu'il faut rapprocher des scientifiques. Et peut-être que ce n'est pas une culture scientifique qu'il faut donner au grand public, mais c'est une culture un peu citoyenne, peut-être, qu'il faut donner aux chercheurs. Voilà. Donc deuxième labo, alors ce n'est pas que ça, mais l'idée, ça va être d'accompagner les chercheurs un petit peu dans leur... Dans le changement science-société, c'est-à-dire un peu un nouveau regard sur finalement leurs pratiques, sur qui ils sont. Alors parfois c'est très pragmatique, très empirique, on va les aider à organiser des colloques, à mettre en place des programmes de recherche, des projets de recherche, etc., de répondre à des appels, mais ça peut être aussi sur la valorisation et la diffusion de leurs recherches, voilà, comment entamer un dialogue, finalement, et pas être dans la simple transmission, la diffusion, mais essayer d'articuler les choses au mieux entre le grand public qui a des attentes, qui a des valeurs, qui a des histoires, et puis le chercheur qui est aussi riche, voilà, et de considérer que les deux camps sont très riches et qu'il y a des choses à faire entre les deux et qu'ils ne soient pas uniquement unidirectionnels.
Merci. Je vous remercie encore pour votre venue.
Merci à vous.
Je remercie l'ISSA et le CNRS d'avoir permis l'organisation de ce débat.